Rezdar Kaïs, merci d'être avec nous.
Oh, merci
nous
à vous.
Nous sommes très heureux de vous accueillir après le débat sur les manières de sortir de la crise et de revenir à des normes démocratiques. Votre passé de directeur de revue, d'intellectuel, d'intervenant sur la scène politique italienne et européenne vous donne une autorité particulière pour réfléchir à ce qui nous a manqué dans les quelques années passées pour réussir la transformation démocratique qui semblait nécessaire après l'ouverture européenne des années 1990. L'expérience italienne a été particulièrement difficile par ce mélange de morcellement politique, d'arriération de certaines structures mentales autour de l'Église et de la difficulté de sortir des débats qu'on aurait aimé voir disparaître, et simultanément la modernité de l'appareil productif italien dans le design, dans la production industrielle, dans la conquête de marchés à l'exportation, qui rend le modèle italien particulièrement difficile à comprendre ailleurs en Europe et tout particulièrement en France, où les structures de centralisation n'ont pas donné ce mélange particulier de créativité et de structures rigides dans l'esprit d'une partie de la population. Comment décririez-vous l'Italie de l'après-Berlusconi? Dans quelles conditions est-ce qu'une nouvelle époque de la démocratie italienne va pouvoir s'ouvrir?
Nous ne sommes pas encore dans l'après-Berlusconi. Berlusconi a quitté le gouvernement, mais n'a pas quitté le pouvoir. Parce que son pouvoir vient pas seulement d'avoir une majorité parlementaire, qui maintenant il a perdu au moins dans une chambre, mais il vient de loin, à savoir il vient du monopole de l'ensemble de la télévision commerciale, monopole qu'il a acquis par vie politique, par voie politique évidemment, avec le gouvernement Craxi. C'est à partir de cet monopole et de l'autre monopole sur la publicité audiovisuelle qui se base sa force et même sa force politique, parce que c'est à partir de ce double monopole qu'il y a pu, il y a 17 ans, organiser dans quelques mois à nouveau une nouvelle formation politique et gagner les élections, parce qu'il avait déjà tous les éléments pour faire un parti. Donc, pendant ces gouvernements, il a élargi énormément ce pouvoir extra-constitutionnel, anticonstitutionnel, sur des plans, dans des secteurs. Les secteurs de toutes les entreprises où il y a un contrôle direct ou indirect par l'État et par les gouvernements. Il s'agit des structures avec un poids économique et stratégique énorme, parce que si pensons seulement à l'entreprise Finmeccanica qui produit armes, avions, navires, bateaux et tout ça au niveau international, global, et nous savons très bien que sur la question armement, système radar et tout ça, et il y a une énorme corruption, il y a aussi des ventes illégaux faites à des gouvernements ou à des forces où il y a des embargos internationaux même. Et il y a la participation de la criminalité internationale. Donc, dans tous les secteurs de l'économie et de la finance où les gouvernements avaient un poids, Berlusconi a organisé une espèce de propriété personnelle. Le deuxième secteur où il est intervenu d'une façon malheureusement très efficace, c'est dans le secteur justice, en infiltrant la magistrature avec des magistrats. Berlusconi a toujours fait la polémique contre les magistrats politisés, mais Enfin, les seuls magistrats politisés qui mettent des raisons politiques avant des raisons de justice sont les magistrats qui il est arrivé ou bien à contrôler ou bien à comment on pourrait dire à morbidire
à tétaniser
donc il a fait passer par sa majorité des dizaines de lois ad personam qui tout simplement empêchaient de faire arriver des procès à leur conclusion. Parce que avec tous ces procès, Berlusconi serait en prison depuis pas mal d'années et pour encore plus d'années.
Alors, on dit qu'il cherche une sortie politique en devenant président de la République italienne, mais cette situation devrait devenir assez difficile à obtenir pour lui.
Et je pense que, heureusement, la possibilité qu'il devienne président de la République, est maintenant, on peut la considérer effacée, mais pas l'énorme pouvoir, ou au moins pouvoir d'interdiction qu'il a encore sur la politique italienne.
Moi, j'aurais bien aimé que vous reveniez sur votre définition d'un politique, enfin votre vision de ce que devrait être un politique et sa carrière.
Un politique ?
Un homme politique, comment devrait être sa carrière exactement ?
Je n'ai pas d'idéal de ce qui devrait être l'homme politique. J'ai tout simplement posé la question qu'aujourd'hui, il y a les monopoles sur l'espace public par des partis, des machines partis autoréférentielles faites par et pour des politiciens qui font de la politique leur carrière à vie et pas un service à terme des représentations des intérêts et des valeurs des autres citoyens. Parce que quand on parle de démocratie représentative, en principe, on pense à ça. Il y a des intérêts et des valeurs dans la population et parmi les citoyens, des groupes, des citoyens, se représentent ces valeurs et ces intérêts à travers un représentant. Et donc, c'est une sorte d'instrument à terme pour faire ça. Alors que les rapports, c'est complètement renversé. Aujourd'hui, ce sont les politiciens, leur parti machine, les sujets. Et les citoyens ont au maximum les droits, même pas, je ne l'appellerai plus pouvoir, de décider entre ces machines monopolistiques qui se partagent l'espace public qui est devenu privatisé et par cette partie machine, les portions des pouvoirs respectifs. Mais dans cette situation, ce n'est pas par hasard que dans n'importe quel sondage, des majorités écrasantes des gens, même si vient justement de voter pour leurs représentants, dénonce, exprime la méprise la plus forte vers cette forme des politiques et des politiciens. Donc, ils ne se sentent pas représentés même par les gens qu'ils viennent de voter.
Est-ce que dans le contexte présent donc d'un gouvernement qui est nommé par le Parlement, mais oui, avant les élections qui vont se dérouler en Italie, est-ce qu'il vous semble que la population italienne va être dans une sorte d'état de réflexivité, de prospective pour imaginer une transformation des règles de la vie politique, ou bien est-ce que ces partis machines ont finalement, avec l'appui des médias de masse, une emprise suffisante pour que la scène politique, même dans les années qui viennent, reste marquée par cette automaticité de la reproduction de professionnels de la politique?
Vous savez, j'évite de faire des prévisions parce que le seul qui peut faire des prévisions, c'est Nostradamus. C'est pas moi. Mais cette réflexion dont vous parlez, ça suffirait si c'était la réflexion d'une partie mince de la population. Ça serait déjà grand chose. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un gouvernement des technocrates, imposé par la crise financière, par la baisse des titres de la bourse, mais voté par une majorité écrasante des parlementaires qui sont tout à fait contre ce gouvernement. Voilà toute une série de paradoxes. Et avec 80% de la population qui, jusqu'à hier, ne connaissait même pas le nom de Mario Monti et qui, aujourd'hui, lui donne une grande confiance. Donc, vous voyez, tout ça, ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question de besoin d'espoir. Et les partis essayent. Quand quelqu'un dit que ça, c'est avoir sous-traite la démocratie au peuple pour la donner aux technocrates. Il n'y avait pas de démocratie à soustraire. Il y avait une partitocratie vidéocratique qui déjà avait mis les citoyens entre parenthèses, et donc qui avait déjà exproprié de la souveraineté les citoyens. Et donc il y a eu un passage. J'ai dit c'était la droite criminelle au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons la droite présentable, civilisée au pouvoir. La crise de la démocratie, qui, c'est évident, dans tout l'Occident, devrait être un moment pour essayer d'inventer des formes de renouvellement des institutions démocratiques. Mais pour le moment, je ne vois pas les sujets capables de faire ces propositions, parce que les partis politiques, les partis machines, sont partie du problème, ne peuvent pas être partie de la solution. Mais aussi les mouvements civiques qui, en Italie, se déroulent depuis au moins 10 ans. Et dans d'autres pays, dans les derniers temps, on fait rage, même dans un pays comme les États-Unis, où il n'y avait plus ces genres de manifestations depuis 67-68. Donc, c'est un demi-siècle. Et on ne voit pas venir des contributions concrètes pour le moment, des objectifs de la lutte. Nous avons pas mal de luttes sans objectif de lutte pour le moment. Et ça, c'est une nouveauté, c'est la première fois dans l'histoire des luttes politiques et sociales qu'il y a des luttes sans objectif, sans chose à demander.
C'est aussi sans doute l'une des premières fois où la jeunesse de l'Europe est minoritaire dans la composition idéologique de la population. Nous avons ici même en France, et je pense que c'est la même chose en Italie, beaucoup d'intérêts des générations âgées qui sont propriétaires, qui ont eu une vie de travail et qui n'ont pas du tout le désir que les choses changent vraiment. Et la jeunesse qui est en difficulté, la jeunesse qui affronte la crise en direct, n'a pas la possibilité facilement de transformer le contexte générationnel dans lequel elle a inventé son propre avenir.
Oui, je ne suis pas sûr du tout que la question générationnelle soit la clé pour comprendre. C'est évident que ceux qui sont jeunes aujourd'hui vivent dans une situation beaucoup plus difficile et pénible de ce que nous avions à leur âge. Parce que à leur âge, nous n'avions pas la peur de ne trouver pas un travail. Même nous avions l'insouciance, on dit insouciance, insouciance de l'avenir, parce que enfin, c'était garanti d'une certaine façon. Alors, on pouvait rester chômeur pendant 4, 5, 5, 6 années, mais ce n'était pas avec l'anxiété d'une condition qui allait durer. Aujourd'hui, c'est vraiment ou bien le chômage ou bien le précariat. Et donc, c'est une situation complètement diverse. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens parmi les âgés qui n'acceptent pas de toute manière cette situation, où les privilégiés deviennent de plus en plus privilégiés, et les riches deviennent de plus en plus riches, et une partie de ce qu'on appelait le secteur moyen devient des véritables pauvres.
C'est tout à fait ce que vous dites, c'est qu'il y avait une capacité pour la génération antérieure d'affronter la difficulté du présent avec une dimension d'espoir et de pari sur l'avenir.
Oui.
C'est dans ce cadre-là que le travail des intellectuels avait trouvé toute sa place une diffusion culturelle internationale en Europe qui avait été un moment glorieux
probablement,
des intellectuels européens. Aujourd'hui, retrouver les conditions de l'espoir est sans doute un passage nécessaire pour que les pays d'Europe occidentale puissent faire le même chemin que peut-être les pays d'Europe centrale ont fait il y a 30 ans pour transformer leur propre structure.
Juste pour dire, pour les jeunes au jour d'aujourd'hui, il y a une incompréhension avec les autres générations. Et pour les jeunes, c'est difficile de se faire entendre. Dès qu'on entreprend quelque chose, on nous reproche de ne pas avoir d'expérience. Et nous, c'est forcément difficile. Et après, il faudrait essayer de faire comprendre aux autres générations, aux générations plus âgées, ce que les jeunes vivent. Et est-ce que ce serait possible que les générations plus âgées changent un peu de mentalité?
Vous savez, je pense que pour se faire entendre, il faut lutter. C'est la seule chose pour se faire véritablement entendre. Qui ne lutte pas peut seulement demander, disons, de l'argent des poches, des faveurs. Mais la seule façon pour se faire véritablement entendre par l'establishment, c'est lutter. D'ailleurs, si je n'ai raison jamais avec les catégories des différents âges, c'est parce que même dans la génération plus jeune, il y a des secteurs privilégiés qui n'ont pas de peur de l'avenir. Parce que dans les derniers 20-30 ans, il y a eu des phénomènes sociaux majeurs et vraiment négatifs. D'abord, l'élargissement du gap entre richesse et pauvreté, les riches beaucoup plus riches, les pauvres beaucoup plus pauvres, et la fermeture de la mobilité sociale. Aujourd'hui, les années après 68, il y a eu vraiment le maximum de mobilité sociale, à savoir des gens qui venaient d'une couche déprivilégiée avaient un espoir d'arriver sur l'autre côté, les plus hauts dans l'histoire. Aujourd'hui, tout ça est à nouveau fermé. Et donc, avec cette fermeture de la mobilité sociale, ça signifie que les fils des privilégiés sont certains d'être à leur tour des privilégiés. Donc, pour la grande masse des jeunes d'aujourd'hui, l'avenir est très difficile, mais pour des secteurs privilégiés, c'est beaucoup plus sûr aujourd'hui leur futur qu'il n'était pas dans les années 70, quand la mobilité sociale mettait en paix, je dis seulement un peu, en danger les privilèges passés des pères en fils.
Oui, bonjour. J'aurais trois questions simples à poser. En Donc la première concerne donc la démocratie dans le monde arabe. En Europe, le mot démocratie chrétienne ne fait pas peur. Doit-on craindre la démocratie musulmane dans le cadre de ces révolutions qui touchent le Maghreb et le Moyen-Orient ?
J'espère qu'il y aura la victoire de la démocratie dans l'Afrique du Nord, parce que ça serait vraiment un changement au niveau mondial des rapports des forces. Pour le moment, nous avons vu une capacité de lutte incroyable. Incroyable parce que des gens qui risquent leur vie avec pleine conscience de risquer la vie et avant la prison, la torture, et massivement continuent à lutter dans les rues pendant des jours, des semaines. Mais les premières conclusions de ce cycle a été que les seules deux forces organisées aujourd'hui sont les militaires et les islamistes. Et donc les véritables forces de la démocratie dans ces pays sont encore désorganisées, divisées, et c'est pas par hasard qu'en Égypte ont été obligés à recommencer avec les démonstrations de rue et avec les sacrifices des dizaines de vies. Donc la partie est seulement commencée, et jusqu'à quand les forces véritablement démocratiques de cette vague des changements dans l'Afrique du Nord ne rend Russie à s'organiser, à devenir une force plus puissante que soit les militaires et ce qui reste des anciens régimes, soit des islamistes de tous les différents courants, je pense que ça serait une erreur parler déjà de démocratie dans ces pays. Il y aura démocratisation quand ces gens des forces seront largement majoritaires dans la population, dans la mentalité et dans les parlements. Jusqu'à là, il faudra parler d'une lutte où, pour la première fois depuis des dizaines des années, on a des véritables démocrates, mais encore minoritaires.
Justement, la question que je vous pose, est-ce qu'on peut-on être démocrate et islamiste, ou bien ce sont des notions complètement opposées ?
Mais vous savez, je pense que c'est presque contradictoire être démocrate et catholique, donc. Mais ça dépend quel genre d'islamisme, parce que je connais des gens qui se déclarent croyants, et qui le sont évidemment s'ils se déclarent, qui ont une attitude islamique, qui ont une attitude absolument laïque. Et je connais des prêtres catholiques qui ont une attitude absolument laïque et qui disent du pape Ratzinger des choses qui, moi-même, n'arriverai pas à dire, des critiques vraiment d'une très dure. Mais en général, je pense que entre la religion et la démocratie, il y a des contradictions très, très, très fortes. Et démocratie implique une laïcité radicale. Parce que démocratie signifie que le pouvoir est autonome dans les citoyens, alors que n'importe quelle religion pense au fond que le souverain est Dieu. Et donc, il y a là, et la prétention des religions d'imposer par la loi des mœurs qui devraient être choisi librement parmi les citoyens, c'est toujours quelque chose auquel, en général, les religions n'arrivent pas à renoncer radicalement.
Une question. En Europe, on connaît, il me semble, l'une des crises économiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Pensez-vous que ça peut mettre en danger la démocratie ?
Ah oui, évidemment, mais ça, cette crise, c'est la crise du système financier qui a été déréglé. Il faut dire, a été déréglé même parmi les gauches officielles, parce que c'est Clinton aussi qui a des responsabilités dans la deregulation pour la finance. Et donc, les dangers pour la démocratie a commencé avant la crise. Ce qui a permis cette crise était déjà un facteur de crise de la démocratie, parce que démocratie signifie qu'on peut utiliser le capitalisme et la finance, mais pas se soumettre à eux. Et aujourd'hui, avec la dérégulation de tous les critères de contrôle et des règles, on est à une sorte de soumission des parlements plus ou moins démocratiques à la force de la finance et de ces règles qui ne sont pas les règles constitutionnelles, sont les règles d'une force complètement déréglée.
Ma dernière question, doit-on et peut-on réformer la démocratie?
Doit-on? Pour réussir, c'est tout à fait autre chose, parce qu'il faut des idées et il faut des luttes. Et parfois, on a les uns, parfois, plus souvent, aujourd'hui au moins, on a les autres. Juste maintenant, je n'ai pas vu les deux choses ensemble. Donc, des luttes capables de poser concrètement des réformes radicales pour réinventer la démocratie représentative. Merci à vous.